Bon, donc aujourd'hui on continue en reprenant un autre réseau et une autre série d'articulations. Et bien sûr, ou plus tôt ou plus tard, il fallait arriver à traiter aussi les Français. Et alors donc aujourd'hui, c'est mon intention de commencer une petite série que je vais continuer donc la semaine prochaine et la semaine d'après. Et finalement aussi pour voir un peu l'intersection entre la question de l'articulation des réseaux français et un certain nombre d'autres thèmes que j'avais traités par le passé, par exemple le rapport avec l'Empire ottoman, le rapport avec l'Empire moghol. Mais il faut quand même se rendre compte que si on fait, on regarde cette carte de ce qui serait les empires européens d'outre-mer, disons vers 1650 ou 1700, vous voyez bien sûr que par rapport aux Portugais, par rapport aux Espagnols, par rapport aux Anglais même, aux Néerlandais, les Français avaient quelques retards. Il y avait relativement peu de présence française, même en 1650 à l'outre-mer. Et d'ailleurs, il faut le dire que même s'il y a, bien sûr, un certain nombre de monographies et des écrits, la question de l'outre-mer pour l'histoire française reste en quelque sorte en retrait jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'on commence à voir un traitement assez considérable du sujet, surtout par rapport à l'Empire atlantique. Mais néanmoins, pour le XVIIe siècle, comme on verra, il y a quand même des choses assez intéressantes à voir et à dire. Et voilà, donc, on commence en pensant à la question tout d'abord géographique. Et si on remonte au XVIe, ça va de soi, et c'est une chose bien connue, que la question de l'outre-mer, c'est essentiellement une question qui est traitée par les gens du Nord. Donc, si on pense à la présence française à l'outre-mer, en Atlantique, et par la suite même en océan Indien, on verra qu'il y a ces trois ou quatre endroits sur lesquels on va revenir sans cesse, Saint-Malo, bien sûr, mais aussi les ports de Normandie, donc Dieppe, mais aussi Honfleur, plus tard Le Havre, Fécamp. Donc ce sont des ports qu'on retrouve maintes fois dans les écrits sur le XVIe, XVIIe siècle. Et c'est plus tard, on le sait, c'est surtout à la deuxième moitié du XVIIe et surtout au début du XVIIIe, par exemple, que les réseaux de la Rochelle en direction de la Nouvelle-France vont se développer et donc on aura finalement une autre articulation. Et donc, tout d'abord, on aura un certain nombre de choses à dire sur ces ports du Nord et bien sûr aussi, là, il faut, d'une certaine façon, essayer d'éviter les grands mythes, par exemple, des mythes romantiques autour des gens comme Jean Angot, la question des soi-disant des pirates de Saint-Malo, etc. Mais revenons un peu sur une petite idée tout d'abord. Alors, on n'a pas, c'est pas facile de trouver des chiffres pour le XVIe siècle, mais pour la fin du XVIIe, rappelons un peu la situation de ces ports, c'est-à-dire pour l'ensemble de la France. J'ai trouvé ça dans un travail qui est déjà un peu daté, mais néanmoins qui garde son intérêt, d'ailleurs de Jean de Lumeau, où il nous a démontré qu'en effet, même en 1687, Saint-Malo reste le port le plus important au niveau des grands navires d'haute mer en France, suivi par Le Havre, un port qui a gagné d'importance en le 16e siècle. Mais Dieppe garde son importance et par la suite, donc, on arrive à ces autres ports, La Rochelle et en fin de cette liste, Marseille, qui aura donc son heure de gloire un peu plus tard. Mais alors, si on ne prend pas seulement les navires appartenant à Saint-Malo, mais par exemple si on prend quelque chose d'autre, c'est-à-dire les arrivées à Saint-Malo, plus ou moins autour du même moment, vous voyez qu'il y a quand même une circulation très intense. Et d'ailleurs, un jour, il serait intéressant peut-être, je vais peut-être revenir à ce sujet, faire la comparaison, par exemple, entre les mouvements dans un port comme Saint-Malo et un port comme Nagasaki ou un port comme Surat pour voir, en fait, au niveau de la circulation, qu'est-ce qu'on peut effectivement dire. Alors, comme je vous ai dit, il faut tout d'abord commencer par le nord. Et il faut commencer aussi par le nord parce qu'on sait qu'au XVIe siècle, les premières tentatives d'articuler des grands réseaux à l'échelle, disons, transcontinentale, viennent précisément de ces ports. On connaît l'histoire des premiers de ces noms. C'est une histoire un peu controversée. C'est l'histoire donc de quelqu'un qui appartient justement à Honfleur, pommier de Gonneville, qui est parti dans un voyage en 1503-1505 en Atlantique Sud. Il a été pris dans une tempête et il a trouvé des terres. Il est revenu finalement en 1505 chez lui en apportant avec lui quelques indigènes de ces terres. Et c'est devenu un sujet très controversé parce qu'on a écrit une histoire des gens de sa famille au XVIIe siècle. On a donc voulu dire qu'il est allé en océan Indien. Il était accompagné par quelques pilotes portugais, il faut le dire, qui avaient aussi participé dans des expéditions portugaises de la fin 15e, début 16e. Mais finalement, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, Gonneville est allé au Brésil parce que les quelques mots qu'on a retenus de la langue parlée par les indigènes qu'il a rapporté avec lui semblent plus ou moins apparentés au Tupi. Donc, c'était l'idée, mais néanmoins, il y avait un mythe qui est resté très fort, c'est-à-dire que Gonneville est allé en océan Indien. Et en fait, c'était pour certains une façon, par exemple, d'affirmer le droit des Français par rapport à une île comme Madagascar, en disant qu'en fait, il est rentré dans l'océan Indien et il a atterri à Madagascar, donc ça serait une façon d'affirmer cette présence, mais en réalité, c'est très peu probable. Je ouvre et ferme une petite parenthèse. Dans les derniers temps, il y a eu une petite controverse. Quelqu'un a voulu affirmer que l'histoire de Gonneville a été inventée de toutes pièces, qu'il n'a jamais voyagé, qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit, mais ce n'est normalement pas accepté par la plupart des spécialistes du sujet. Alors, par la suite, donc, toujours dans le cadre de ces gens du Nord, on a bien sûr l'histoire, encore une fois, assez bien connue et très bien étudiée par celui qui s'est occupé de ces sujets, Michel Mola en particulier, c'est-à-dire c'est l'histoire des Florentins, des Verrazzano, qui, eux, étaient plus ou moins dans la mouvance de Ango et donc de Dieppe, et qui ont donc monté deux expéditions. La première en Amérique, et ils ont plus ou moins exploré ce qui serait l'embouchure de la rivière Hudson. Donc, ils ont été aussi dans ce qui serait aujourd'hui le New Jersey. Et d'ailleurs, il y a un pont, le pont Verrazzano au New Jersey, justement à cause de ça. Et ils ont aussi monté une petite expédition sans beaucoup de succès en océan Indien. Et ça a été répété trois fois par la suite. Donc, il y a l'expédition des Verrazzano en direction de l'Indonésie. C'était leur intention d'aller en Indonésie. Ensuite, il y a cette petite expédition, toujours de Dieppe, de Broglie de Funag. Et je vais revenir sur cette expédition. C'est parmi ces expéditions la moins connue, mais aussi avec l'intention d'aller chercher le poivre de l'Indonésie au Sumatra. Et ces deux expéditions ont eu beaucoup de difficultés avec les Portugais. Ils ont été attaqués. Dans certains cas, ils ont même fait naufrage. Il y avait toujours ce rapport difficile, car, bien sûr, selon le traité de Tordesillas et la confirmation faite dans les négociations des années 1520, les autres pouvoirs catholiques, en principe, n'avaient pas le droit de rentrer en océan Indien. C'était que les Portugais qui avaient ce monopole, soi-disant. Donc, il y avait cette question qui se posait. Et par la suite, dans cette série, il y a le voyage des Parmentiers, en 1529-30 en Asie du Sud-Est. C'est un voyage qui est resté célèbre, surtout parce qu'il y avait des littéraires, des poètes qui ont été associés avec ce voyage. Donc ça a aussi laissé des traces dans la littérature et dans la poésie surtout. Alors, donc, si vous voulez, là, vous voyez un peu plus ou moins le trajet des Verrazzano en 1524. Ici, vous aviez le voyage des Parmentiers qui sont allés jusqu'au Sumatra en 1529-30 et d'ailleurs qui sont passés, eux, certainement par Madagascar. Il n'y a pas de doute sur ça. On sait que tout cela, ça n'a rien donné. En fin de compte, il n'y avait pas de consolidation, il n'y avait pas de vrai développement à partir de ça, mais ça a laissé quelques traces assez amusantes dans la cartographie dieppoise. Donc ça, il y a une série de cartes, mais ça, c'est peut-être la carte la plus célèbre, où on voit donc dessiner une version un peu étrange de l'Amérique du Sud, mais surtout ce qui a suscité la controverse dans ces cartes, c'est bien sûr ça, hein, ce qui est décrit ici comme Java la Grande. Il y a eu donc, comme vous le savez peut-être, pas mal de questions autour de ce qui serait Java la Grande et si, en effet, à l'époque, c'était une espèce de reflet d'une connaissance de l'Australie. Et si, en fait, ils avaient une petite idée qu'il y avait peut-être en parlant justement avec les navigateurs en Asie du Sud-Est, qu'il y avait cette terre, cette grande terre qui était là, mais jamais personne n'a pu résoudre cette question. Il semble plutôt que les Portugais, par exemple, avaient une connaissance vague de la côte nord de l'Australie, mais à la fin du XVIe, mais pas avant ça. En tout cas, donc, il y a cette réflexion. Il y a aussi un autre reflet qui est amusant, c'est cette lettre qui se trouve dans les archives à Lisbonne. Et c'est une lettre qui est écrite par une série de Français. En fait, il y a 36 Français qui sont, à l'époque de cette lettre, en captivité au Gujarat. Et il s'avère qu'ils sont des gens qui sont les... ce qui reste de, justement, l'expédition de Brélis de Funag. C'est-à-dire, ils ont été en Afrique de l'Est. Par la suite, ils sont allés dans le port gujarati de Diu. Et là, il y a eu des tractations avec le sultan. Et le sultan a compris que c'était des gens qui savaient manipuler l'artillerie. Et du coup, donc, il les a pris comme prisonniers. Et ils ont été, intégrés dans l'armée du sultan de Gujarat. On a cette trace, qui est cette lettre écrite en 1528 au gouverneur portugais Lopes Vaz de Sampaio, où il se plaint de comment ils ont été traités, mais ils insistent dans la deuxième partie de cette lettre que le sultan a voulu qu'il laisse la sainte foi catholique de Jésus-Christ, qu'il devienne musulman, mais ils insistent qu'ils ont refusé ça, qu'ils ont gardé leur foi. Mais par la suite, on les trouve ici et là dans les chroniques persanes. Il y a toujours mention dans les années 1530 de ces Français, quelques-uns devenus renégats et d'autres restés chrétiens qui ont lutté donc, dans les batailles des années 1530 entre le sultan et le roi moghol Humayun. Mais tant qu'on sache, il n'y a personne parmi ce groupe qui est revenu. Donc, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... mis à part cette trace, dans les archives en France, on n'en trouve pas, des échos. Mais néanmoins, ça, c'est quand même un moment d'une expédition montée donc toujours avec l'aide des Portugais, qui, en particulier, il y avait un marin portugais qui s'appelle Estevão Dias. Et ce Estevão Dias, c'est celui qui était plus ou moins le pilote et qui gérait un peu les choses avec, bien sûr, ses amis et ses confrères normands. Alors, on sait par contre que plus ou moins au moment de la fin de ces expéditions-là, en 1530, il y a le début des autres expéditions, mais dans un autre sens, donc il y a une espèce de coïncidence assez claire. On abandonne ces projets vers l'Asie et par contre, on va vers ces projets en direction de l'Amérique. Donc, on a Jacques Cartier qui part dans une première expédition, qui fait l'exploration de la rivière de Saint-Laurent, ce qui deviendrait plus tard, bien sûr, au XVIIe siècle. La colonie, bien sûr, de Nouvelle-France, de Québec. Et il y a donc aussi cette deuxième expédition où là, on est dans un cadre qui devient le cadre, moi je dirais, presque classique de ces explorations françaises. C'est-à-dire un cadre où, d'un côté, on a Cartier qui représente, c'est un Malouin, qui représente un peu l'esprit mercantile et plus ou moins autonome. Et de l'autre côté, on a Robert Val qui est imposé par la couronne. Et cette expédition, qui va durer un peu plus qu'un an, va se solder dans un échec, mais dans un cadre qui va se répéter, parce que c'est toujours le cas que, manifestement, il y a une espèce de tension entre ces tentatives des particuliers et la couronne qui a un rapport très compliqué avec ces tentatives, la couronne qui va vouloir imposer parfois des institutions, parfois un rapport de force entre les représentants de la couronne et les autres. Et bien sûr, dans le cas de Cartier de Robert Val, Cartier va abandonner l'expédition, Robert Val sera obligé de revenir plus tard. On va donc abandonner cette idée pour ensuite aller vers le sud. Ça, c'est le cas le plus connu parmi toutes les expéditions françaises du XVIe. C'est l'expédition de la baie de Guanabara, de Villegagnon, ce qui nous a laissé beaucoup de traces, dont surtout le texte de Jean de Léry, mais aussi le texte de Thévé. Et alors là, cette expédition de France Antarctique, c'est en quelque sorte, on rejoue un peu la même histoire, toujours la couronne qui a ses ambitions, les autres qui ont d'autres idées, ce qui va aussi se compliquer par le fait d'une tension entre huguenots et catholiques. Et enfin, là encore, on sait qu'au bout de 3 ans et demi, 4 ans, c'est abandonné. Pour aller encore, et on est toujours, bien sûr, dans le cadre, déjà avec Cartier jusqu'à un certain point, mais avec Villegagnon et avec la Floride française aussi, ces expéditions qui ont à voir avec les ambitions de l'amiral Coligny. Donc, qui va essayer par la suite de monter une expédition et construire des forteresses en Floride. Et là encore, ça va donner un échec, mais un échec assez sanglant, car les Français sont, dans ce cas particulier, massacrés par les Espagnols. Pas tous, mais presque tous. Et ça, c'est donc la fin pour le XVIe siècle, plus ou moins. Et ça, bien sûr, on peut comprendre très facilement, parce que par la suite, on a la mort de l'assassinat de Coligny même, qui était en quelque sorte l'impulsion dans ces expéditions. Et il semble que les gens du Nord, eux aussi, ont abandonné l'idée des expéditions pendant, disons, les années 1560-70-80. Mais ce n'est pas le cas que tout a terminé comme ça aussi abruptement. On sait que ça a donné quelques résultats, même au niveau des textes publiés. Ça, c'est, ça, il n'y a pas de nom, mais c'est un texte qui est lié avec Cartier. Et probablement, en partie, il a aussi participé dans sa production. C'est le bref récit et succincte narration de la navigation faite aux îles du Canada, et etc., publié en 1545. Alors donc, si on va vers l'historiographie et la littérature secondaire du 20e, début 21e siècle, je vous ai dit que ce n'est pas considéré comme un grand sujet, mais c'est quand même un sujet. Ce n'est pas comme si ça a été entièrement abandonné. Même quelqu'un comme Fernand Braudel, dans un de ses moments je dirais, moins connu, a consacré cet ouvrage collectif « Le monde de Jacques Cartier » qu'il avait fait justement avec Michel Mollat et d'autres, même si ce n'était pas un de ses vrais sujets, moi je dirais. Et bien sûr, il y a surtout la production autour de Saint-Malo, comme surtout ce livre très important d'André l'Espagnol, Les Messieurs de Saint-Malo, mais il y a aussi, je crois qu'il y a aussi un roman qui a plus ou moins le même nom, mais il y a aussi, bien sûr, cet autre livre, un livre assez important, mais traitant la question des Français, la terre et la mer, sur la longue durée du XIIIe au XXe siècle, bien sûr avec une certaine attention portée à la question du XVIe, XVIIe. Mais en réalité, si on regarde les travaux qui ont repris un peu la question, il s'avère que ce sont des travaux, donc, d'un côté, sur les échanges culturels, des travaux portant, par exemple, sur la question des missions et des rapports entre missionnaires et indigènes, par exemple, dans la Nouvelle-France. Ici, on est donc dans ce moment de reprise au XVIIe siècle avec Champlain. Champlain qui va donc aller au-delà des explorations de quartier, qui va donc aider à créer ou à mettre en place quelque chose qui est beaucoup plus considérable que les petits comptoirs de commerce de fourrure qu'il y avait au tout début du XVIIe siècle, donc qui va jusqu'au Grand Lac, hein, surtout le lac Ontario, mais aussi Erie et Huron. Et là, on sait aussi que, bien sûr, il y avait à la fois cette expansion ici, hein, ce qui est plus ou moins le territoire de Québec, mais il y avait aussi, bien sûr, cet deuxième aspect qui est l'Acadie. Donc là, on a quand même, moi je dirais, une production dans les derniers temps considérable, portant essentiellement sur la question des échanges culturels et même quelques tentatives, par exemple, d'écrire une espèce d'ethno-histoire en reprenant un peu le point de vue des indigènes. Ce qui n'est pas tout à fait évident, mais néanmoins ça existe. On sait qu'il y avait donc une distribution assez compliquée des peuples indigènes dans cette région. Donc les Français essentiellement ont à voir avec les Iroquois, avec les Algonquins et avec les Hurons. Donc c'est les trois peuples, mais en fait dans l'extension ils ont quand même des rapports avec pas mal d'autres. Et donc, il s'avère que maintenant, on a de plus en plus de tentatives. Je pense que celui qui a été un peu le pionnier de tout cela, c'est Bruce Trigger. Mais par la suite, il y a eu quand même des tentatives beaucoup plus considérables, à la fois pour parler de ça et bien sûr aussi de parler de la présence française. Et vous voyez que la présence française des colons était extrêmement faible. Donc, même en 1640, on a probablement quelques centaines de Français, pas plus que ça. Et il faut attendre, bien sûr, la deuxième moitié du XVIe siècle pour voir une vraie expansion qui va monter jusque dans les quelques milliers de Français. Et là, à partir de ça, on a aussi des travaux sur la démographie de ce peuplement et ces questions-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe et qui a aussi l'avantage d'être basé sur une production assez considérable de la part, surtout de Champlain. Champlain qui était quelqu'un qui était, lui, en fait, un peu plus compliqué, c'est un Girondin, mais qui avait des liens avec les gens du Nord et qui est parti donc dans une expédition qui était liée avec justement les Malouins et les Normands. Mais Champlain, qui avait pas mal de talents, par exemple, comme cartographe, comme hydrographe, comme dessinateur, etc., et donc qui nous a laissé pas seulement ses cartes, mais des textes assez importants, à la fois décrivant, ici vous voyez, qu'il a sondé un peu les eaux où il est passé, hein. Et il y a aussi ces autres matériaux liés avec Champlain, qui parfois, on peut dire, rappellent un peu Jean de Léry. Il y a quelques ressemblances de famille, en tout cas, hein, dans les illustrations, etc. Mais bien sûr, sans insister sur cet aspect des cannibales. Mais néanmoins, vous voyez ici, par exemple, la présence des armes à feu, toute cette question qui est, on peut explorer à partir de ces textes-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe, qui est un vrai fait historiographique, mais ce qui reste relativement faible, c'est l'aspect asiatique dans cette historiographie. Encore une fois, je ne veux pas dire que ça n'existe pas du tout. Bien sûr, ça existe. Mais, comme je dis, il reste relativement méconnu. Et surtout, on a un peu l'impression que ce n'est pas très bien intégré dans l'ensemble des réflexions. Alors, on sait qu'au début du XVIIe siècle, les Français, surtout les Normands et les Bretons, avaient relancé des expéditions en direction de l'océan Indien. Ça, c'est le premier de ces expéditions. C'est l'expédition qui est connue surtout par cet écrit, cette publication de 1604, qui est un écrit de quelqu'un qui s'appelle François Martin, mais normalement on l'appelle François Martin de Vitry. C'est un Breton, mais on l'appelle François Martin de Vitry aussi parce qu'il y a un autre François Martin, beaucoup plus célèbre à la fin du XVIIe siècle, qui est celui qui a fondé Pondichéry. Donc, pour distinguer l'un de l'autre, il est normalement connu comme François Martin de Vitry. Et regardons, par exemple, comment il commence son texte, pour voir lui aussi comment il voyait le rapport entre la question de l'outre-mer et la question de l'identité française même. Donc, voyons. Il dit « Ce qui me fait déplorer le défaut de la nation française, laquelle étant plus que tout autre naturellement pourvue de vivacité, d'esprit, de valeurs redoutables, a néanmoins langui si longtemps dans le sommeil de l'oisivité, méprisant ses enseignements et outre cela, les trésors des Indes orientales, desquels les Portugais et Espagnols se sont enrichis, hein, si je l'ose dire, aucunement à notre préjudice. À la fin, une compagnie de marchands de Saint-Malo, Vitré et Laval, ceux qui sont réveillés premiers pour effacer cette honte et enrichir le public des singularités de l'Orient, se sont résolus, exposant leurs moyens et leur vie au hasard de 1000 morts dont la mer est remplie, de mettre les voiles au vent pour y faire un voyage. C'est pourquoi, lors de notre salut 1601, ils équipèrent deux navires, l'un de 400 tonneaux, nommé le Croissant, et l'autre de 200 tonneaux, nommé le Corbin, et pour l'exécution de la dite entreprise, étoit chef et principal conducteur, le sieur Michel Frotté, sieur de la Bardelière, bourgeois de la ville de Saint-Malo, et ainsi de suite. Donc, il nous raconte cette expédition qui les a amenés, comme toujours, il y a toujours le même tropisme en direction de Sumatra et en direction de l'Indonésie. Donc, vous voyez que c'est comme si ces expéditions des années 1520 sont restées ancrées quelque part dans le subconscient de ces gens. Et d'ailleurs, c'est très évident pourquoi on fait ça, pour une raison très évidente, parce qu'en Inde, les Portugais ont une présence fortifiée. En Asie du Sud-Est, ils n'ont qu'une une forteresse d'importance, qui est la forteresse de Malacca. Et une fois qu'on évite Malacca et on va vers les autres îles, il n'y a pas de vraie opposition au niveau d'une présence armée des Portugais. Et d'ailleurs, ça c'est une première raison. Une deuxième raison qui est aussi évidente, c'est que ce qui intéresse, c'est les épices. Les épices se trouvent surtout en Indonésie et pas tellement en Inde. Et le poivre, maintenant on est à la fin du XVIe siècle, le poivre qui était autrefois plus ou moins un monopole de l'Inde, au cours du XVIe siècle, maintenant, a pris racine surtout au Sumatra. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi trouver du poivre facilement au Sumatra. Donc, pourquoi aller en Inde, affronter les Portugais dans une situation où ils sont relativement forts, quand on peut détourner ça et aller tout droit en Indonésie? Mais le problème, c'est que, comme ils l'ont trouvé, ce n'est pas que les Portugais qu'il faut affronter, il y a aussi les Néerlandais. Et là, du coup, le problème que les gens de cette expédition vont avoir, ce n'est pas tellement donc, avec les Portugais, mais surtout avec ces Néerlandais. Mais néanmoins, ils vont réussir à faire donc, cette expédition en évitant Malacca et en allant donc vers les autres îles. Et d'ailleurs, il sera dans les ports de Java aussi au tout début du XVIIe siècle. Donc ça, c'est un moment de renouveau, un moment de quand il y a donc une tentative de revenir sur cette question. Et on voit que c'est toujours les mêmes groupes, les mêmes tendances. Et là encore, sans demander trop au niveau de l'approbation de la couronne, mais ils seront donc bien sûr aussi rattrapés. Alors, en même temps qu'on parle de ça, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il y avait des individus, des Français, qui ne faisaient pas partie des expéditions, mais des individus qui sont partis en direction de l'océan Indien au début du XVIIe siècle. Il y a quelqu'un qui reste un peu mystérieux et on a un peu tendance de penser qu'il serait un peu... il a un peu tendance de fabuler. C'est ce monsieur Vincent Leblanc, qui est un Marseillais, qui dit qu'il avait passé en gros 30 ou 40 ans entre le Brésil, l'Inde, etc. Mais il a publié son texte relativement tard. Le texte est publié finalement qu'au milieu du XVIIe siècle, et d'ailleurs, on aura toute une lutte autour de ce texte. Donc ça, c'est un cas, c'est quelqu'un qui a navigué un peu, au moins si on croit ce qu'il écrit, dans l'océan Indien. Mais en réalité, il y a beaucoup de Français, apparemment, qui d'une façon ou d'une autre auraient fait partie de la présence portugaise. Parce qu'on sait que les Portugais avaient tendance à accepter d'autres nations européennes. On le sait avec les Italiens, mais en fait, on a trouvé, en regardant la liste des garnisons portugais, par exemple, dans les années 1510, qu'il y avait des Irlandais, par exemple, hein, chez les Portugais, déjà en 1515-1516. Donc, les Français aussi, eux, ils passaient. Et alors, donc, il faut au moins prendre en compte ces autres individus passés comme ça, et donc, parmi lesquels, les plus connus sont Jean Mocquet et François Pirard de Laval. Tous les deux ont laissé des textes, mais là encore, attention, parce que le problème, c'est que ces textes-là font partie d'une espèce de, je dirais presque d'une industrie. Et celui qui contrôle tout cela, c'est ce monsieur Pierre Bergeron. Et ça, on le connaît maintenant grâce à des spécialistes de la littérature des voyages. Donc, c'est plutôt des littéraires, et en particulier un professeur à l'Université de Toronto, Grégoire Holtz, qui a beaucoup travaillé sur ces rapports et qui nous a démontré comme quoi, en effet, Mocquet et Pirard de Laval, leurs textes ont été entièrement remaniés et refaits par Bergeron. Alors, Bergeron, c'est donc quelqu'un qui est une espèce d'intellectuel de bureau, c'est pas lui qui voyage, mais c'est quelqu'un qui tient des correspondances assez intéressantes. Par exemple, il a des correspondants aux Pays-Bas, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille avec ces gens. Par exemple, on dit, c'est un peu la mauvaise langue, mais néanmoins, on dit que, par exemple, que Pirard de Laval était plus ou moins un ivrogne. Donc, il n'arrivait même pas à mettre deux phrases ensemble, et que Bergeron était obligé de travailler deux, trois fois avec lui pour stabiliser le texte, pour être sûr que la chronologie qu'il racontait une fois n'était pas absolument en contradiction avec ce qu'il racontait quelques mois plus tard. Mais d'ailleurs, maintenant, on voit comment travailler Bergeron à partir de ce troisième cas, qui est d'ailleurs le cas peut-être le plus intéressant, qui est celui de Pierre-Olivier Malherbe, qui a fait le tour du monde à la fin du 16e, début du 17e. Et Malherbe donc, est parti en Espagne, puis en Amérique espagnole. Il a été en Amérique du Sud. Il a ensuite il a traversé le Pacifique et il est rentré donc, en océan Indien. Et finalement, il se retrouve à la cour moghole au début du XVIIe siècle. Et donc, il va passer du temps là-bas, mais aussi dans les autres empires islamiques. Hein. Donc, au début de son texte, et d'ailleurs, c'est un texte qui n'est pas écrit par Malherbe, mais ce sont des notes qui ont été prises par Bergeron. Hein. Donc, Bergeron a parlé avec Malherbe et il a rédigé un texte qu'il n'a jamais publié. Et dans ce texte, par exemple, il dit qu'il a voyagé pendant 27 ans, de 1581 jusqu'en 1608, et ont été prisonniers aux Indes occidentales, passer toutes les îles, détroit de Panama, mer du Sud, côtoyer la partie australe du Pérou jusqu'au détroit de Magellan, puis vers les îles Salomon, aux Philippines, de là en la Chine, Moluques, toute l'Inde orientale et îles, côte d'Afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, et enfin, etc., il a aussi vu Mogor, Hindoustan, Perse, Arabie, etc. Donc c'est quelqu'un qui a quand même fait un voyage assez considérable, et c'est un voyage, je vous livre juste une petite partie, d'ailleurs que M. Holtz a eu la gentillesse de partager avec moi, il va le publier bientôt. Alors, là, vous voyez, par exemple, il est en Inde moghole. Et on est vers 1604-1605. Donc, il va assister à la transition entre Akbar et Jahangir. Et voilà, par exemple, son jugement sur les moghols. Il dit... Or, semble que ce prince, moins que tous les autres même temps, se formalise des cérémonies et façons de faire des peuples, quelles qu'elles soient. Promettons aux jésuites qui sont de catéchiser les hommes, mais non les enfants de son pays. Et ces peuples idolâtres, qu'il dit plus haïr, leur ayant laissé toutes leurs folles cérémonies jusqu'au dépouillement des filles que les brahmins font pour leur pagode, qu'il permet encore à Mathura, lesquels le Mogor, ayant ouï parler à Malherbe, il dit que c'était chose antique sans la réprouver davantage. Ces brahmines font mille impostures pour faire parler ces pagodes aux idoles, comme eux-mêmes confessent à Malherbe, disant que c'était pour gagner leur vie parmi ces peuples qui croient là. C'est quoi cela? Donc il faut quand même prendre ça avec cum grano salis. Le Mogor défend toutefois aux parents de Brahmin de laisser brûler les veuves des dix Brahmins, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il dit que tout cela montre que ce prince, c'est probablement Akbar, ce prince est plus déiste que Mahometan, comme était Tamerlan. Et d'ailleurs, par la suite, il va faire le contraste entre les méchants ottomans et les bons moghols. En disant en gros que les Ottomans sont vraiment des musulmans beaucoup plus durs, beaucoup plus sunnites, et les Moghols sont donc parmi ces idolâtres qu'ils tolèrent. Alors, donc, Malherbe fait partie de cet éventail des textes contrôlés par Bergeron d'une façon ou d'une autre, certains qu'il a donnés à la publication, comme Pirard ou comme Moquet. Il a aussi traité Bergeron avec beaucoup de difficultés avec Vincent Leblanc, qui ne voulait pas laisser la main sur son texte. Mais avec Malherbe, il n'est pas arrivé à mettre ça sur la place publique. Mais néanmoins, on a les traces de ça dans les archives. Alors, donc, ce qu'on a avec Malherbe, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est pour la première fois un Français qui rentre, disons, dans le cœur de l'Empire moghol. Tandis que les autres, si on regarde Pirard ou Moquet ou les autres, ils ont toujours une présence côtière qui est liée avec leurs activités dans l'Empire portugais. Ils n'ont jamais pénétré dans l'intérieur, tandis que pour la première fois, avec Malherbe, on a une tentative de décrire l'importance de l'Empire moghol et surtout pour faire, à partir de ça, une idée qu'il serait intéressant de pas seulement se concentrer sur l'Asie du Sud-Est, mais vraiment avoir un rapport direct et un rapport contractuel avec ce grand empereur qui est le roi moghol. D'ailleurs, dans le cimetière chrétien d'Agra, que vous voyez ici, on a tous ces Européens qui se promenaient à l'époque, qui ont été enterrés dans ce cimetière. Donc, il y a des Arméniens, bien sûr, mais il y a aussi quelques Italiens, quelques Français, mais un peu plus tard, et aussi quelques Anglais. Et on verra qu'en réalité, il est assez intéressant d'essayer de voir en quelle mesure ils se séparaient les uns des autres, ou en quelle mesure, en fait, il y avait une espèce de melting pot. Cimetière comme melting pot, ce n'est pas une très bonne idée, mais néanmoins, il y avait un espèce de rapport entre ces gens-là. Là, vous voyez quelques-uns des tombeaux les plus anciens de cet endroit. Alors, donc, vous avez ça, d'un côté, toujours Bergeron, qui est une espèce d'entrepreneur, mais un entrepreneur, disons, de l'édition, un entrepreneur intellectuel. On a toujours, vous voyez, l'intérêt portée par les gens des ports du Nord. Mais là, de l'autre côté, il y a bien sûr l'État français qui s'intéresse, mais qui s'avère, qui se dit très frustré. Donc Louis XIII, qui dit dans les années 1620, « L'on regrette la division de nos sujets, que voulant chacun faire bande à part et ne songeant qu'à leur profit particulier, ont souffert de grandes pertes. » Là, il se réfère à un certain nombre de ces expéditions. Et Richelieu qui dit en 1626 qu'il faut faire des grandes compagnies, obliger les marchands d'y entrer, car faute de ces compagnies, pour ce que chaque petit marchand trafique à part et de son bien, ils n'ont pas les reins assez forts comme aurait une grande compagnie. Donc là, on songe toujours aux Néerlandais. Là, déjà, on a la compagnie néerlandaise comme modèle, ou même la compagnie anglaise, mais surtout la compagnie néerlandaise, on a cette idée donc, qu'il faut, en quelque sorte, obliger ces gens, comme les gens de Saint-Malo, de Vitry ou autres, de se mettre ensemble. Alors, le personnage qui, à l'époque, joue le rôle principal dans le cadre des marchands, donc là, vous voyez que l'État a son intérêt, il y a ces voyageurs, il y a les gens qui présentent les voyageurs sur la place publique comme entreprise d'édition, mais celui qui est le plus important, comme j'ai dit, en représentant les marchands du Nord, c'est Augustin de Beaulieu, qui lui est un Normand, et qui a monté des expéditions lui aussi dans les années 70 en direction de l'Asie du Sud-Est, mais qui est quelqu'un qui a des projets les uns après les autres. Même à son retour, il va continuer à essayer d'avoir et de gérer ses projets. Alors donc là, on a un projet, un de ses projets intéressants. Ça, c'est un texte qu'il a écrit en 1624, où il a appris l'importance du Grand Mogol. Et c'est un projet donc pour commercer avec l'Empire Mogol, où il dit qu'il faut se gagner les bonnes grâces du grand Mogol. Et comment faire ? Il dit qu'en effet, il a quelqu'un, un ami ou une connaissance en tout cas, qui est anglais de nation et qui a beaucoup vu et fait les voyages des Indes par mer et par terre, qui parle le bon persan, et qui est même marié et a mené sa femme jusqu'en cours du Grand Mogol. Donc pendant un certain temps, l'identité de ce monsieur est restée un mystère. Finalement, j'ai trouvé qui c'est. C'est un Anglais qui s'appelle Richard Steele, qui a été en Iran, puis dans la cour mogole, et apparemment qui voulait changer de maître, et qui a même proposé à Beaulieu qu'il accepterait de devenir sujet du roi de France, s'il était permis à devenir plus ou moins le représentant d'une éventuelle compagnie française pour aller en Inde Mogol. Mais, mis à part cet Anglais Richard Steele, il y a quelqu'un d'autre qui était assez important, et c'est celui qui est mentionné à la fin de la lettre de Beaulieu. Parce que là, il dit que la communication que j'ai eue avec divers capitaines et marchands sujets de Grand Mogol et la résidence que fait en cours, dit celui, un Français nommé Augustin Guérand, à qui j'ai écrit des Indes, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Et le porteur de l'Erz, ce porteur vous pourra dire quelques particularités de dit personnage. Et il s'agit de qui? Alors ça, c'était un personnage assez important qui s'appelle Augustin Hériard, un Bordelais, et qui se trouvait donc dans la cour mogole pendant à peu près 30 ans, entre 1605 ou 6, parce qu'il a été en Angleterre à la cour de Jacques Ier, et par la suite, il est parti en Inde. Et Augustin Hériard est quelqu'un, c'est un joaillier. Et donc, il y a tout ce réseau, un réseau de joailliers qui va se définir autour du rapport donc France, Angleterre, Empire ottoman, Iran, Inde Mogol. Et Hériard est une espèce de pièce clé dans cette affaire. Alors, on connaît beaucoup de choses sur Hériard, et d'ailleurs, on continue à découvrir des choses de lui. Il s'avère qu'on a, par exemple, dans le texte, un texte qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, écrit par un marchand de Bruges qui s'appelle Jacques de Coutre, un texte, La vida de Jacques de Coutre, qui est un texte rédigé en espagnol, et c'est une espèce d'autobiographie où il raconte ses voyages dans les Andes. Et alors, Coutre, alors là, il arrive, il est en Inde Mogol, il dit, et d'ahi, à pocos días, llegué à la ciudad de corte de Agra. Saliéronme a recibir cinco criados del rey Mogol, una legua fuera, el uno era francés, ingeniero, y se llamaba Agustín Honorbant. Y es de saber que Honorbant quiere decir en lengua de los mojores ingeniero. Los otros eran flamencos e italianos. Y donc, par la suite, quelques pages plus tard dans le texte, il nous dit que celui dont il parlait, le mismo ingeniero Agustín Honorbant, avait fait le trône de Grand Mogol. Donc, c'est ce qu'on appelle le trône de Pahang. Et donc, ça a été fait par ce Agustín et qu'il s'appelait Honorbant, comme il l'appelle, parce que c'était une espèce d'honorifique qui lui a été donnée par les Mogols. Alors, il s'avère qu'on a quelques lettres de ce Agustín, ce Augustin, et voilà un peu comment il se présente, lui. Dans une de ses lettres, il nous écrit sur... pardonnez-moi. Voilà. C'est une lettre où on voit déjà comment, en fait, son français a été contaminé par le portugais, parce qu'il a passé pas mal de temps et, manifestement, il ne parle plus français. Donc, il dit, « Il y a 8 ans que je suis en ce pays. Le premier an, moururent tous les Français que j'avais amenés avec moi. Après, je me mis au service de ce grand mogol, lequel, premièrement, me donnait 4 écus par jour, par mois 120, mais Asturo, l'année passée, il m'a fait capitano de 200 chevaux. Je lui fis un trono real, où il y a entre plusieurs millions d'argent, d'or d'argent et plusieurs autres inventions, comme de tailler un diamant de 100 guias en 10 jours. Les grandeurs de ce roi ne se peuvent croire. Seulement, j'en dirais 3 diamants grands et rubis valent, etc., etc. Donc, et plus, il exagère beaucoup en disant que partout où le roi voit, il a avec soi 1500 000 créatures humaines, chevaliers, soldats, officiers, femmes et enfants. Alors, il nous explique qu'il avait des rapports avec pas mal de gens, qu'il voulait faire pas seulement ce commerce de pierres précieuses, mais aussi un commerce des animaux exotiques. Il a en fait envoyé à maintes reprises des éléphants de l'Inde par la voie terrestre et à un moment donné, dans un moment un peu fantaisiste, il envoie même un rhinocéros. Mais comme il nous dit, l'animal est devenu furieux et on a essayé de contrôler l'animal en faisant un trou dans son mufle et il est mort aussitôt. Bon. C'est quelqu'un qui reste très important, qui va garder des liens. Et là, je vais vous décrire un peu comment ça marche donc, à un autre niveau. Donc, vous voyez, là, c'est le réseau qui le lie avec Coutre, lui aussi marchand de diamants, des émeraudes, comme là, ça fait partie de la collection de Grand Mogol. Et on verra par la suite, d'ailleurs, qu'il y a ce rapport fait par les pierres précieuses. C'est assez crucial pour beaucoup de choses. Mais qui sont donc les correspondants et le réseau des gens comme Augustin Hériard? Et là, on revient vers quelqu'un qui, lui, en quelque sorte, une espèce de penseur qui pense le monde. Et c'est, bien sûr, c'est Fabry de Peresque. Donc, lui, grand personnage de la fin 16e et début du 17e, qui a attiré pas mal d'attention, qui était surtout dans le sud, autour d'Aix, et bien sûr aussi un peu de Carpentras. Là, vous avez un des derniers livres qui ont été publiés sur lui de Peter Miller, sur l'Europe de Peresque. Mais en fait, Peresque, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'échelle mondiale. Donc, rappelons un peu les étapes de sa carrière. Il est donc né d'une famille aixoise. Il a fait des études, entre autres, à Tournon avec les jésuites. Ensuite, il a voyagé en Italie, revenu à Montpellier pour devenir docteur en droit. Et il a fait des voyages donc, à Paris, à Londres et à Flandre. Il a un réseau donc, européen assez considérable. Par la suite, il est conseiller au Parlement de Provence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, pendant 30 ans, il tient une correspondance énorme. Et on connaît les aspects les plus élevés de cette correspondance, c'est-à-dire avec Grotius aux Pays-Bas, avec Richelieu, avec Rubens, avec Gassendi, avec Galilée, avec Campanella, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme réseau de correspondants, qui a écrit un seul texte de sa vie, plus ou moins, qu'il a vraiment pu achever, qui est l'histoire abrégée de la Provence. Il est mort en 1637, mais il est en quelque sorte l'image d'un certain type de savant, c'est-à-dire qu'il ramasse beaucoup et qu'il ne publie pas grand-chose. Donc, on a donc Peiresc, et là, grâce à Peter Miller, on a la possibilité, hein, c'est un peu semblable à ce qui a été fait, par exemple, pour d'autres personnes comme Newton. Et ici, vous aviez donc les réseaux de Peiresc. Comment, en fait, il arrive à ramasser toute cette information et tous ces objets, tous ces textes. Parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par les médailles, par les questions de numismatique, mais aussi par les textes, par les écritures exotiques. Et donc, si vous regardez, il y a ici donc, les marchands de Marseille qui sont à son service, des gens de Toulon, des officiels, mais vous aviez ici aussi des voyageurs, hein, des missionnaires, hein, des diplomates, des capitaines de vaisseaux, etc. Et tous ces gens sont en lien avec lui. Et ici, vous aviez les orfèvres et les joailliers, qui sont aussi font partie de son réseau. Et parmi ces gens-là, on a, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, il a un certain nombre de nouveaux chrétiens, des maranes, hein, surtout des maranes portugais. Mais il a aussi donc, des gens comme Hériard, qui font partie de son réseau, et donc on a retrouvé les traces de la correspondance entre Hériard à la cour moghole et Peiresc. Et alors, bien sûr, ce qu'il pense faire Peiresc, c'est en quelque sorte, de ramasser tout cela pour créer une espèce de vision du monde, une vision mondiale, pour aller un peu au-delà de la chronologie basée sur les données bibliques qui venaient de la tradition des gens comme Scaliger. Il voulait probablement aller au-delà de ça. Il n'a jamais réussi à faire ça, mais néanmoins, on voit comment le réseau fonctionne. Donc, vous aviez, pour ainsi dire, plusieurs types de fonctionnement, plusieurs types de centres qui se croisent. Donc, on dirait que Peiresc, par exemple, est beaucoup plus dans la continuité de Bergeron. Et d'ailleurs, il y a des rapports entre les deux. Bergeron et Peiresc se sont connus. Et d'ailleurs, dans l'affaire de Vincent Leblanc, quand Bergeron n'a pas réussi à mettre la main sur le manuscrit de Vincent Leblanc, c'est Peiresc qui est intervenu pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, Peiresc, c'est aussi assez important pour la suite, parce qu'il est très proche de Gassendi. Et Gassendi, bien sûr, est le maître de Bernier, qui sera une des pièces les plus importantes pour la connaissance française de l'Asie et du monde islamique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a les réseaux contemporains, mais il y a aussi les généalogies qu'on peut construire en allant vers la deuxième moitié donc, du siècle. Alors, donc vous aviez ça, Peiresc, lié avec les textes, lié avec les voyageurs, ramassant de l'information, pour arriver à construire sa version du monde avec son assis en Provence. Mais bien sûr, il y a aussi un indéfatigable Beaulieu qui va continuer, lui, à produire un projet après l'autre. Vous avez vu le projet des années 1620, où il va proposer donc ce rapport que peut se construire avec les Moghols. en passant par Hériard et en passant par Richard Steele. Mais dans les années 1630, il a déjà changé d'avis, Beaulieu, et il va revenir vers le marquis de Fia, le maréchal de France, au début des années 1630, avec un autre projet. Et ce projet-là a une géographie qui est maintenant complètement différente. Car ce qui décide Beaulieu entre-temps, c'est qu'il ne vaut pas la peine vraiment de rentrer dans un contact très direct et très important avec les Moghols, car ça serait trop difficile à gérer, et les Français n'auront pas assez d'autonomie. Mais donc, ce qu'il propose, c'est un autre projet avec son centre dans l'île de Madagascar. Alors, donc, on est au début des années 1630. Il a quelques informations sur le Madagascar, et c'est surtout autour de ce qu'on appelle la baie de Antongil, dans cette partie, où il va proposer de créer un centre français, et à partir de ce centre français, qui aurait donc un lien direct par la route du Cap avec la France, on aurait plusieurs réseaux possibles, donc vers l'Afrique de l'Est, vers la mer Rouge, vers le golfe Persique, avec l'Inde, mais aussi avec la Thaïlande, avec l'Indonésie. Et en allant, d'ailleurs, on est dans les années 1630, ils pensent qu'on peut aller jusque au sud du Japon faire le commerce. Donc là, c'est une autre vision maintenant venant de la part de Beaulieu, et d'ailleurs, qui n'est pas resté sans conséquences. Parce que le résultat de ça, c'est bien sûr cette histoire assez compliquée qu'on a avec les Européens et Madagascar à l'époque. C'est-à-dire, bon, on sait que Afonso d'Albuquerque avait déjà été à ce qu'on appelait, les Portugais appelaient à Ilha de São Lourenço, c'était leur nom pour Madagascar, en 1504. Mais les Portugais n'avaient pas grand-chose à voir finalement avec les Malgaches et avec l'île. Mais donc, en 1630, quand c'est proposé par Beaulieu, il n'y a pas de vraie implantation des autres Européens non plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment il présente les choses. Il dit « L'île de Madagascar est plus grande que l'Angleterre et s'étend depuis le 27 degrés sud de l'équinoxial jusque par les 12 degrés. » Et il dit que l'air y est fort sain et tempéré, abondant en très grande qualité de bétail, etc. Donc, il fait de ça une espèce de paradis. Et même s'il dit que la religion de Mahomet commence à s'y être enseignée, c'est encore très faible, tandis que dans le contexte moghol, on aurait beaucoup plus de difficultés. Et ça va donner des résultats, parce que même si ce n'est pas tout de suite, vous voyez que les Anglais, eux aussi, vont commencer à essayer de s'implanter dans le Madagascar dans les années 1630 et 40. Ça va durer à peu près 10 ans. Et bien sûr, les Français vont s'installer, pas là où ils voulaient, parce que lui, il aurait préféré une location plutôt par là, mais en fait à Fort Dauphin, où ils ont donc créé cette implantation dans les années 1540, qui vont durer plus ou moins 35 ans et qui vont produire de la littérature, comme le célèbre texte d'Étienne de la Flacour ou l'autre texte encore. Alors donc, si on prend tout cela, et c'est en quelque sorte pour vous donner une espèce de préhistoire pour aller vers deux choses. C'est là où je vais reprendre la semaine prochaine. Donc, d'un côté, pour voir un peu la consolidation de tout cela avec les voyageurs de l'époque de Colbert. Et ces voyageurs, contrairement à ce qu'on voit dans les cas que j'ai traités jusque-là, seront liés avec quelque chose qui est un projet central et centralisateur, qui est le projet de la Compagnie des Indes. Donc, mais pendant 50 ans ou même plus, il y a eu toutes ces autres tentatives, tous ces autres niveaux de penser les choses. Et vous voyez que le projet, déjà maintenant dans les années 1630-40, même si c'est en partie une question des entrées des gens du Nord, il y a maintenant beaucoup plus de gens ailleurs, comme par exemple Fabry de Peresque, qui lui est carrément quelqu'un qui vient de beaucoup plus au Sud, des intellectuels, même des gens à la cour qui commencent à voir l'entrée de l'affaire. Mais le problème, c'est toujours comment articuler, comment réconcilier ces tendances différentes, car il y a toujours le problème de faire, comme disait Louis XIII, bande à part, le désir de l'autonomie des gens du Nord par rapport aux idées des gens comme Colbert, qui avaient bien sûr une autre notion des choses. Et là, donc, on va traiter cette question à partir de quelques-uns de ces personnages du milieu du siècle, Tavernier, Bernier, Chardin, mais surtout François Le Gouze de La Boulaye, un homme très important dont le rôle dans ces questions a été un peu délaissé et qui était, lui, vraiment un voyageur à l'échelle globale, qui avait une connaissance très bien de toute une série de choses. Et donc, c'est là où on va reprendre les choses d'ici une semaine.